nourrit des perspectives nuances. Salut à tous, un lundi de plus, on se retrouve avec ce soir une petite émission qui va surtout nous parler du chapitre carcéral de ce monde. Et voilà, salut à tous. Je vais vous lire donc un petit compte-rendu du procès des inculpés de l'incendie du Canet qui s'est passé donc le 26 novembre dernier. Une centaine de personnes s'étaient déplacées en solidarité à l'intérieur et à l'extérieur du tribunal. Les flics étant eux au moins deux fois plus nombreux, au chaud, dans leur car. Après le réquisitoire, plutôt à décharge, le procureur qui les déclare tout de même coupables et demande un an, donc 4 mois, avec sursis. Leur avocat termine sa plaidoirie en disant que la justice n'a aucun élément de preuve tangible pour déclarer coupables les deux inculpés, que ces présumés coupables ont peut-être été désignés pour expédier au plus vite une affaire qui emmerdait l'État. Ouvrez les guillemets, donc. Car si des coupables n'étaient pas désignés au plus vite, c'était peut-être l'État qui serait responsable. Après suspension de séance, le verdict tombe. 12 mois ferme pour les deux, un aménagement de peine sous forme de bracelet électronique pour l'un, une convocation pour un rendez-vous avec le juge d'application des peines pour l'autre, qui n'était pas présent au moment du délibéré. Le collectif de soutien fait appel à tous ceux qui pourraient soutenir, en offrant un contrat de travail aux ex-inculpés. Et pour toute proposition, il y a une adresse internet qui est soutien6cra@riseup.net. Alors soutien 6 cra, donc soutien SOUTIEN 6 le chiffre, cra cra at riseup.net. Et pour ceux qui connaissent pas riseup.net, riseup.net. Voilà. Et alors après, il y a un compte rendu détaillé du procès sur les blogs Sans Papier ni Frontières et Marseille Info Autonome également.
Et voilà, et pour enchaîner, je vais donner une petite nouvelle, plutôt une grosse nouvelle de la tôle d'Argentan, où selon l'administration pénitentiaire, une quinzaine de détenus se sont rebellés vendredi dernier. Et donc, dimanche matin, ce sont les surveillants qui s'y sont mis en bloquant l'accès du centre de détention pour protester contre cette mutinerie.
Contre leurs conditions de travail, quoi.
C'est ça. Et donc, ils ont voulu en fait empêcher le déroulé des parloirs, mais heureusement, ça n'a pas fait consensus et donc leur blocus a été levé dans la matinée. Alors l'administration pénitentiaire précise que les détenus étaient une quinzaine et que 6 d'entre eux ont été transférés alors que les autres sont placés à l'isolement. Solidarité avec
C'est encore une histoire à suivre, car comme on va le voir dans les minutes qui viennent, à chaque fois qu'il y a une révolte dans une tôle, quelle qu'elle soit, on sait que c'est jamais sans conséquence pour tous les détenus. Ça peut signifier transfert ou en tout cas des mises à l'isolement.
Et parfois des peines supplémentaires.
Et souvent des peines supplémentaires. Et du coup, est-ce que ça serait pas le moment de commencer justement sur ces actualités, la suite de toutes les luttes qu'on puisse passer ces derniers mois dans les tôles françaises, ou de procès de prisonniers qui se sont pas mal bougés? Alors je sais pas par où on commence, si on pourrait commencer par l'envolée justement, peut-être, pourquoi pas. Alors l'envolée qu'on présente plus, c'est l'envolée, donc pour en finir avec tous les enfermements, journal contre la société carcérale, et non pas anticarcérale. Je vois un sourire dans la cabine, il y aura bien qu'il s'exprime ce sourire.
Un journal qu'on présente plus, mais bon, qu'on va présenter, je t'en prie.
Présente plus. Bon, on le présentera après, alors. Et du coup, je vais vous lire l'édito du dernier petit numéro qui vient de sortir. À Nice, un jeune homme de 19 piges s'est fait tuer d'une balle dans le dos par le bijoutier qu'il venait de braquer. Encore un petit commerçant qui joue les shérifs, mais ce coup-ci, t'as 1000 personnes dans la rue avec des pancartes. La prison, non, la légitime défense, oui. Qui couvre la voix des proches d'Anthony, buté en pleine rue, pour quelques euros. Quelques fascistes ont monté des pauvres pages Facebook en 2-2. Alors, les JT ont fait un peu de pub, et 2 millions d'abrutis ont levé le pouce en un clic pour soutenir le tueur. Une espèce de viva la muerte, sur les tablettes avant de passer à table. Ils ont toujours été là, ces pétochards, à gueuler contre le laxisme de la justice, entre guillemets bien entendu, et pour la peine de mort, entre poujadisme, francisque et eau bénite. Aujourd'hui, ils rouvrent simplement plus grand leur bouche. C'est dans l'air du temps, semble-t-il.
La gauche au pouvoir fait tranquillement la chasse aux Roms, la bonne vieille droite dégueule sa ville sur la toile, et de plus en plus dans la rue. C'est qu'après leur manif anti-PD, ils iraient jusqu'à traiter la ministre de la Justice de négresse. Nous sommes coincés. D'un côté, la droite et sa répugnante déferlante de haine raciste, et de l'autre, la gauche, qui en profite pour faire de Taubira une humaniste martyrisée, une icône qu'on ne pourrait plus critiquer. Ça tombe bien. Ces derniers mois, le PS a construit son show autour du duo du choc Taubira-Valls. À Taubira, le laxisme, à Valls, la fermeté. On en oublierait presque qu'ils marchent ensemble, la juge et le flic. Un garde des Sceaux n'a ni sexe, ni couleur de peau. Il exerce une fonction. Il fait tourner la machine pénale, met un peu d'huile, ajuste les réglages selon les besoins de l'époque. Marine Le Pen, ou n'importe quel autre gestionnaire, ne ferait pas autre chose. Et si les FAF lisaient le projet de réforme pénale de Taubira, eh bien c'est eux qui auraient la banane, parce que c'est une carotte. Le nombre de condamnés ne cesse de croître, les chantiers de construction de nouvelles prisons sont à la traîne. Trop de matelas par terre, le flux des entrants et sortants devient ingérable pour les comptables grisâtres de la paix, donc de l'administration pénitentiaire. Évidemment, la réforme pénale ne vise ni à vider les prisons, ni à arrêter d'en construire, ni même à geler le nombre d'enjolés aux 70 000 actuels. Elle ne s'attaque pas à la surpopulation, elle tâche juste de la réguler, pour que tout le monde exécute sa peine sans que les taux l'explosent. Il s'agit d'enfermer aussi hors des murs, de mieux en mieux, de plus en plus. Alors paye ton laxisme. D'ailleurs, pour que le pays soit tout à fait rassuré, le pauvre cadeau empoisonné promis aux petites peines, donc la prison à la maison, est aussitôt contrebalancé par l'annonce d'un durcissement pour les longues peines, ces fameux « récidivistes » entre guillemets, qu'il ne faut plus laisser sortir. Jamais. Condamné à une peine infinie, quand les comptes d'apothicaire de l'administration tombent invariablement en ta défaveur, il n'y a plus de Taubira, la progressiste insultée, il n'y a plus qu'une ministre de la Justice aussi implacable que tous ses prédécesseurs.
Vous êtes toujours à l'écoute de NDChaîne, donc c'était l'édito de l'envolée. Et donc avant de revenir sur cette fameuse réforme pénale proposée par Taubira, eh ben, on va revenir sur les mutineries de l'été, les mutineries du mois d'août à Bourg-en-Bresse, à Blois et à Châteaudun. Alors d'abord je vais commencer par une petite citation de Nadir qui a été condamné pour la mutinerie de Châteaudun et qui résume un peu ce qui se passe quand on se mutine en prison. Face à ces fous qui se cachent derrière leur uniforme pour faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, on prend notre courage à deux points et on a fait ce qu'on avait à faire. Un point, c'est tout. Alors, donc ces mutineries de l'été ont commencé le 1er août à Bourg-en-Bresse avec l'expression d'un ras-le-bol contre les décisions du juge d'application des peines, contre les complicités du trio maçonnerie services sociaux tribunal qui les laisse moisir dans les geôles. Même quand il y a des possibilités de sortie, alors retranchés dans une aile, les prisonniers ont arraché les machines à laver, ce qui a provoqué des inondations, les caméras de surveillance, les lampes. Tout ça avant que les hérisses de Dijon ne soient dépêchés sur place. Alors depuis, la plupart donc, des mutins ont été transférés dans d'autres prisons ou placés au mitard. On va enchaîner avec la mutinerie de Blois. Je vous propose du coup d'écouter un propos d'un détenu qui revient d'abord sur la mort de Mounir, 24 ans, décédé en cellule faute de soins malgré ses demandes d'appel au secours.
Il était allongé dans sa cellule hier et son co-détenu l'a entendu en train de suffoquer. Ensuite, il tape à la porte pendant une demi-heure parce qu'il n'y a pas d'alarme pour prévenir les surveillants qui viennent en urgence. Quand il y a un malaise comme ça, on est obligé de taper à la porte. On a tapé à la porte pendant plus d'une demi-heure. Le surveillant est arrivé, vous savez ce qu'il lui a dit ? Il est en train de le narguer. Il est en train de lui dire « Arrête de boire de l'alcool, je sais très bien qu'il est en train de dormir, t'es en train de me mentir. » Et c'est au bout d'une heure qu'ils se sont aperçus comme quoi il ne pouvait rien faire. Ça veut dire pendant cette demi-heure-là, eh ben, ils avaient le temps de le sauver, ils pouvaient le sauver, et ils ne l'ont pas fait. Ils ont mal fait leur boulot. Tout le monde est venu fou de rage. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé ? On a cassé 4 portes de promenade. On a cassé 3 portes pour accéder à la détention. On a tout cassé, on a cassé toutes les serrures, on a cassé toutes les portes. On pouvait pas se comporter normalement. C'était impossible.
À Blois, après un renforcement de la discipline les mois précédents, les prisonniers se révoltent, détruisent en partie la maison d'arrêt avant que les redoutables hérisses interviennent. Une quarantaine de prisonniers seront dans la foulée transférés à Fresnes et à Châteaudun. La ministre de la Justice, elle se rend sur place pour apporter son soutien aux matons. Et aujourd'hui, lundi 9 décembre, 9 détenus passent en procès à Blois. Ils sont accusés d'incitation à la rébellion, de rébellion en réunion, de dégradation de biens publics en réunion, de violence volontaire n'ayant pas entraîné d'interdiction temporaire de travail, mais aussi de port d'objets prohibés, en l'occurrence le téléphone qui a servi à communiquer avec l'extérieur pendant l'émeute. Ouais, on va pouvoir maintenant qu'on a parlé de mutinerie de Bourg-en-Bresse et de Blois, parler de la mutinerie de Châteaudun, dont je vous conseille, si vous voulez en savoir plus, de lire ce qui a été écrit à propos notamment d'un des procès dans l'envolée et puis les lettres des personnes qui ont directement été acteurs de cette révolte. Alors Châteaudun, ça s'est déroulé les 20 et 21 août, c'était deux jours de mutinerie donc. Et donc deux jours de mutinerie qui ont conduit à trois procès où trois groupes de six mutins sont passés à la barre. Alors lors des deux premiers procès, les 12 prisonniers ont pris entre 12 et 18 mois de prison. Et donc vous pourrez lire le compte-rendu du troisième procès dans l'envolée. Les six détenus qui sont passés à ce moment-là, le 19 septembre, ont pris entre 6 et 12 mois. Alors peut-être on peut lire des extraits de témoignages, d'abord celui de Herbert.
Là je suis monté sur le toit du préau. Et je demandais à voir le directeur. Je savais que je finirais au mitard, mais au moins, Léa, il y aurait une raison.
Il y a Nadir aussi qui témoigne.
Là, il y a souvent des blocages à Châteaudun. Mais pas des gros, c'est régulier. Après, on rentrait à chaque fois dans notre cellule. Après, ils arrivaient à 4 matons vers 20h dans notre cellule, et nous mettaient des coups, les menottes dans le dos, puis direction, le mitard. Alors qu'on faisait rien, on a vu plusieurs fois des détenus prendre des coups. Ils se foutaient aussi de notre gueule. C'est ça votre blocage ? Il raconte que la veille de la mutinerie, un prisonnier s'est fait défoncer alors qu'il était menotté.
Voilà, donc après donc, cette mutinerie donc, dans la cour du bâtiment 0, les Eris interviennent. Et là, donc, on a un témoignage à la barre de Ricky qui nous en dit un peu plus sur l'intervention des cagoulés.
Puis les Eris sont intervenus. Je me suis mis à courir pour leur échapper. J'ai grimpé alors sur le toit pour me protéger. C'est là que j'ai pris une grenade assourdissante au niveau de l'oreille. J'ai eu l'oreille coupée en deux et le visage brûlé. J'ai perdu connaissance sur le toit.
Voilà, donc ce qu'il faut noter, c'est que donc, ce sont ces événements donc, du 20 août qui ont amené à une révolte en solidarité le lendemain par d'autres détenus de la prison de Châteaudun. Et ce qu'on peut aussi noter, c'est que durant tout le procès, les détenus se sont montrés solidaires entre eux et que même quand la justice cherche à désigner un meneur, il n'y a aucun des mutins qui cherche à charger... un des autres inculpés. Alors l'envolée publie aussi un témoignage d'un des prisonniers qui, aux fenêtres, a assisté à la scène et a allumé des incendies, comme d'autres détenus aux fenêtres, pour soutenir les mutins de la cour. Alors libéré depuis, ce détenu raconte que la révolte est partie à cause du non-respect des droits de permission et des aménagements de peine, à cause aussi des 130 euros par mois pour 131 heures de travail dont il témoigne lui-même. Il rapporte que comme à chaque fois, les Eris cagoulés se sont lâchés alors qu'ils étaient une centaine pour juste 4 détenus sur un toit. Pas étonnant donc que d'autres détenus décident de se mutiner dès le lendemain. L'envolée publie également deux lettres d'Herbert depuis le quartier d'isolement de Bois d'Arcy,
Parce que justement lui a été transféré. Et voilà. En tout cas, il raconte assez bien, je vous invite à lire. En tout cas, il finit toujours sur une petite note un peu positive où il dit « Le combat continue, même si ici l'atmosphère est glauque et qu'il faut des tripes pour l'affronter. Il n'y a pas et il n'y aura pas d'arrangement. Le combat continue. À bientôt, Herbert. »
Et voilà, et donc peut-être avant de vous donner des nouvelles de la nouvelle prison Bouygues de Réau et de Christophe Kider, on peut passer un petit morceau de musique. Et puis on vous invite à lire l'envolée, soit sur le site internet, soit le journal, pour en savoir plus sur ces mutineries de l'été et le procès qui s'ensuit aujourd'hui pour la mutinerie de Blois. On July 2nd, 1953, I was serving time in Tehachapi. 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow and I heard somebody yell. Block number 4.
spread like fire across the prison floor. Warden came in with a big Tommy gun. Bang, bang, bang. Trying to stop my fun, but there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. Come out with your hands up in the air. You don't stop this riot, you all gonna get the chair. Two gun Matilda said it's too late to quit. Pass the dynamite, Molly, 'cause man, this is a lit. There's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. State militia to help them win the fight. Drove up to the prison in the middle of the night. Each and every trooper, he looked so tall and fine. All the chicks went crazy up in cell block number 9. Now there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9.
Donc voilà un morceau qu'on ne vous présente plus sur ND Chaîne, tellement nous l'avons déjà passé. Maintenant, on va vous parler donc de Christophe Kidder, dont on vous a déjà quand même largement parlé, mais on va vous le présenter, même si on ne vous le présente plus. Voilà, notamment, il y avait un numéro spécial qui avait été fait par L'Envolé suite à son procès pour évasion, où il était avec notamment Top et Ladj. Et leurs deux compagnes, encore une fois, je m'excuse d'avoir oublié les prénoms. Et donc, ils étaient passés en procès pour cette évasion, où pour le coup, il a été recondamné, mais ne faisant finalement qu'alourdir sa peine. Et déjà au procès, il avait largement exprimé son opinion sur la longueur des peines, et sur notamment celle que lui, il entendait faire éventuellement, c'est-à-dire celle de 20 ans, mais pas plus. Et il avait notamment, plus ou moins directement, invectivé le directeur de la prison, qui était présent forcément, puisque c'était pour une tentative d'évasion. Et en lui disant, quelque part, que lui-même avait les clés en main, les clés de la liberté de Kidder, qui dans tous les cas, voilà, au bout de 20 ans fait, deviendrait peut-être la bête qu'on voulait lui faire, pour laquelle on voulait le faire passer. Et donc dans tous les cas, après ce procès, où finalement vu le peu de retentissement que ça a pu avoir un point de vue plus national, des médias très peu repris, donc à part, je vous le rappelle, par L'Envolé qui retranscrit l'intégralité du procès dans un numéro précédent, donc que vous pouvez aussi recevoir à qui l'intéresse, hein. Il suffit aussi d'écrire à une des chaînes, on le rappellera encore une fois.
Vous pouvez le choper sur internet aussi,
hein. Et voilà,
l'envolé.net.
Voilà, L'Envolé, donc à vous un peu d'aller vous pencher là-dessus, c'est très très intéressant. Et dans tous les cas, voilà, une déclaration qui vient de faire suite à ça, peut-être pour réappuyer là où ça fait mal et pour dire réellement ce qu'il pense. Et donc voilà, une lettre qu'il a envoyée cette fois-ci directement à Taubira, et elle est publiée donc dans L'Envolé, je vous la lis. « Je ne vous mets pas au pied du mur, je suis au pied du mur. » Et donc c'est du 24 juillet 2013, la date de son procès plus ou moins en fait. « Madame Taubira, je m'appelle Christophe Kidder, je suis âgé de 42 ans. Le 14 septembre de cette année, cela fera 18 ans plein que je suis incarcéré. » Depuis 18 mois, je fais ma peine au QMC d'Annolin. J'ai été condamné en 1999 à 30 ans de réclusion par la cour d'assises de Paris. En 1997, à 18 mois pour tentative d'évasion au TGI de Bobigny. À 15 ans en 2007, par la cour d'assises du Val-de-Marne pour tentative d'évasion de la maison d'arrêt de Fresnes. À 3 ans par le tribunal correctionnel de Lyon pour tentative d'évasion de la centrale de Lannemezan. À 15 ans par la cour d'assises du Rhône pour évasion de la centrale de Moulins. L'ensemble de ces condamnations fixe ma date de libération en 2052. J'aurai alors 81 ans. L'origine de ces faits, la voici. En 1995, je suis inculpé pour homicide volontaire lors du braquage d'un fourgon blindé. J'ai tué involontairement un homme. Quelques minutes auparavant, je maîtrisais et désarmais les trois convoyeurs sans les blesser. Il m'était inconcevable de faire du mal à un homme désarmé. La mort de William Machia est un accident tragique dont je ne me suis jamais véritablement remis. Je suis prêt à rencontrer sa famille si elle le souhaite. Lors du procès, l'avocat général M. Bilger, qui n'est pas réputé pour son indulgence mais qui avait bien compris qu'il ne s'agissait pas là d'un homicide volontaire, avait requis 22 ans d'enfermement. Malgré cela, la cour d'assises présidée par Drey n'a pas suivi le réquisitoire, trop laxiste à son goût, et a prononcé une peine de 30 ans. Je pouvais assumer une peine de 20 ans, mais je ne pouvais pas accepter la volonté de Drey de m'enterrer vivant. C'est pourquoi j'ai tenté de m'extraire de mon cercueil aussi souvent que possible. Je n'ai jamais pour autant attenté à l'intégrité physique de qui que ce soit. J'en tiens la preuve, si besoin était, les témoignages des otages de Fresnes ou Moulins. Au contraire, j'ai toujours tout fait pour arracher ma liberté sans blesser quiconque, ceci même quand les policiers me tiraient dessus. Je m'adresse à vous aujourd'hui, car vous représentez le pouvoir politique, et je rappelle qu'il est créé à Taubira, et vous seul pouvez me tirer de cet imbroglio juridique qui fait du total des peines d'évasion et des tentatives non confusionnables, a priori un quantum supérieur à la sentence initiale déjà démesurée. Ma question est simple. Pourquoi le droit ne s'applique pas pour moi? Pourquoi le total de mes peines n'est pas ramené à 30 ans? Cette mesure me rendrait conditionnable dans 2 ou 3 ans. Madame, je refuse d'être condamné à mort. Il faut appeler un chat un chat. De mois en mois, d'année en année, on me laisse sans réponse. Je vous demande aujourd'hui de me dire clairement, franchement, ce qui m'attend. Je n'implore rien. La justice préfère les gens à genoux. Ceux qui finissent par se taire, simplement parce qu'ils n'arrivent même plus à parler. Je ne suis et je ne serai jamais dans cet état. Je me tiens en très bonne forme intellectuelle et physique. Je ne serai jamais un fantôme, comme tant d'autres croisés dans les différents mouroirs, estampillés centrales où j'ai été enfermé. Je ne suis ni suicidaire ni malade. Je ne ferai jamais la grève de la faim, ni ne me mutilerai. C'est dans cet état d'esprit que pour la première fois je m'adresse à la plus haute autorité. Dans 2 ans, ça fera 20 années de détention. Je n'en ferai pas plus. Si les pouvoirs politiques et judiciaires faisaient la sourde oreille, je considérerais toutes ces sentences comme une peine de mort. Comme tout être bien vivant, je ne me laisserai pas tuer sans me défendre. Comme je l'ai dit en conclusion des débats à la cour d'assises de Lyon en avril dernier, sans emphase, sans forfanterie, je briserai ce que j'ai de meilleur en moi et deviendrai ce que vous aurez fait de moi, ce que je n'ai jamais été jusque-là. Un être violent. Je suis conscient d'y rester en cas de non-considération des autorités. Et je suis prêt. Madame, vous avez mon avenir et celui des gens qui m'aiment entre vos mains. À savoir que la réponse de la place Vendôme fut un transfert au quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Liancourt, puis dans la nouvelle prison ultra-sécuritaire de Condé-sur-Sarthe. Et alors ça, c'est sans commentaire.
Alors on va continuer par donner des nouvelles de Christine, alors qu'on ne présente plus non plus sur l'une des chaînes, puisqu'on a déjà parlé d'elle. Mais quand même, en guise de présentation, on va vous passer un petit extrait d'une interview qu'on a déjà passée, qui a été faite de Christine, mais quand elle était libre, c'est-à-dire il y a plus d'un an maintenant.
La talonnière, la cour des femmes, elle est vraiment chouette. Il y a de l'herbe, il y a des petits bancs et tout. Les nanas, elles étalent leurs serviettes, elles se bronzent. Et il y a un arbre, un vrai arbre. Et j'étais là, allongée sous l'arbre, et j'ai entendu un piaf. Et j'ai eu envie de monter dans l'arbre pour voir si le nid il était habité. Donc je suis montée dans l'arbre, toutes les filles m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ?» Je monte dans l'arbre. Évidemment, les matons qui arrivent « descends là !» Je dis bah, « Je monte voir le nid et je redescends. » Et je leur gueule en bas, ouais, bande de moutons, pourquoi vous leur obéissez? Ils m'ont répondu, ta gueule, la chèvre.
Ouais, Christine, donc voilà, Christine, la bergère, pas vraiment moutonnière. Christine est incarcérée à nouveau depuis novembre 2012, suite cette fois-ci à une altercation avec les matons lors d'une visite à un ami au parloir de l'atoll de Corbas. En fait, c'est pas vraiment la première fois qu'elle est incarcérée, à peu près pour les mêmes raisons. Mais cette fois-ci, elle est aussi sous le coup d'un sursis auquel elle a été condamnée pour avoir froissé un PV de contravention routière devant un gendarme. Alors, le 19 septembre dernier, Christine était cette fois-ci jugée par le tribunal d'Arras pour des faits survenus au centre de détention de Bapaume, notamment lorsqu'elle exprimait sa solidarité envers une codétenue du Mitard. Elle exigeait que celle-ci soit traitée correctement, tout simplement. Donc, Christine était inculpée le 19 septembre pour refus de donner ses empreintes, pour violence, parce qu'elle s'est débattue sous les coups des matons, pour menace, parce qu'elle a crié à un mastodonte qu'elle allait lui péter la gueule, pour dégradation, parce qu'elle a gravé sur les murs de la cour du centre de détention de Bapaume, mur par mur, pierre par pierre, nous détruirons toutes les prisons, et parce qu'elle a foutu le feu dans les différentes cellules dans lesquelles elle est passée. La procureure réclamait la peine plancher, soit un an de prison ferme supplémentaire pour Christine. Jeudi 26 novembre, le délibéré est tombé. Le tribunal a suivi de près le parquet, en donnant un an ferme, dont 6 mois en sursis mis à l'épreuve. Il ajoute également une amende de plusieurs centaines d'euros pour dommages et intérêts au maton qui avait porté plainte après avoir cogné Christine. 200 euros pour le maton dénommé Bokeh, 300 euros pour le maton dénommé Corée et encore 200 euros pour un troisième. Les conditions du sursis mises à l'épreuve sont l'obligation d'indemniser les victimes et une obligation de travail. Beau chantage, arrondir une fin de mois à la matonnerie ou prendre 6 mois de plus. Sans surprise, la justice a défendu ses chiens de garde et rallongé considérablement la peine de Christine. Avec cette nouvelle peine, son hypothétique date de libération passe à fin 2015. À cela, s'ajoutera encore un procès en appel à Lyon, dont il manque toujours la date. Aujourd'hui, et depuis mi-octobre, Christine est incarcérée au centre de détention pour femmes de Réau, en banlieue parisienne, une toute nouvelle prison construite par Bouygues. Elle est toujours en régime porte fermée, mais pour l'instant, elle a à peu près évité la case mitard isolement. Elle est donc de nouveau en contact avec d'autres détenus, ce qui n'était plus le cas depuis le mois de juillet. Elle enchaîne les mitards et l'isolement à Bapaume, puis à Séguéda. Dans une lettre du 20 octobre, Christine raconte son transfert de Séguéda, son arrivée à Réau. Comme la loi le lui permet de voyager main libre dans un fourgon cellulaire, elle refuse de se laisser menotter. Elle se fait alors tabasser. Après 2 heures de route, elle arrive à la nouvelle tôle, où on lui fait direct de nombreux avertissements. Alors qu'elle avait toujours refusé de participer à son propre fichage, elle finit, épuisée, et à cause d'un chantage de maton, par leur lâcher ses empreintes pour la carte biométrique. Et les geôliers en profitent pour la photographier contre son gré. Les casquets sont là, à 2 pas. Elle parle de ses rencontres avec les autres détenus, précise que beaucoup sont ensuqués au Médoc ou au shit. Christine témoigne de sa niaque, de l'acharnement quotidien qu'elle subit, notamment lorsqu'elle va voir ses parents au parloir.
Ils ont imposé des fouilles, palpations à l'entrée, à nu au retour, sous prétexte que les nouveaux portiques étaient certes arrivés, mais pas mis en place. J'ai râlé un peu, mais j'ai accepté comme à chaque fois qu'ils tiennent mes proches en otage. Aussitôt après, j'ai voulu aller en promenade, une fois déposé mon sac de livres et de linge propre en cellule. Ils ont accepté, mais m'ont demandé de repasser sous le portique détecteur de métaux, alors qu'ils ne m'avaient pas lâché depuis la fouille. J'ai gueulé et j'ai crié « Bip 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 !» en passant dessous. Là, ça va comme ça ? Comme j'ai atteint la porte qui donne sur la cour, 4 casquets étaient en train d'arriver en courant au CDF. Je les ai ignorés et suis allé en promenade. Le CDF a été bloqué 20 minutes, sans explication. Le retour s'est fait normalement, mais avec 4 matons. Hier, j'ai essayé d'expliquer au bricard que si je ne disais pas bonjour, c'était une forme de respect par le refus de l'hypocrisie. Je n'ai aucune envie qu'il passe une bonne journée. J'espère chaque fois qu'il y aura des évasions et des mutineries. Je ne pense pas qu'il a compris.
Dans une autre lettre du 12 novembre, Christine parle de ses rapports avec les matons de Réau.
J'ai l'impression qu'on a atteint une espèce d'équilibre dans le pouvoir de nuisance. Il est affirmé des deux côtés qu'on n'est pas des potes. Mais pour autant, par économie et confort, on n'a pas envie d'aller au physique. Par exemple, jeudi soir, c'est monté haut en décibels pour une histoire d'accès à la promenade où on est censé rester 2 heures en rang. Ce qui est bien long, surtout avec cette météo hivernale. Or, j'ai décoté deux lignes dans le règlement intérieur qui dit qu'on peut aller en promenade après une activité. Donc, il suffit d'aller à la biblio ou à la muscu durant 1 heure ou 1h30 pour rester dans la cour 1 heure ou 1/2 heure. Ça a énervé des matons, plus habitués à la norme qu'à la règle, mais ils ont dû céder. L'un d'eux m'a même dit le lendemain, je ne devrais pas te le dire, mais en vrai, tu nous es utile car tu obliges la direction à prendre position au lieu de nous laisser nous démerder, nous surveillant de base avec des textes inadaptés. Voilà la meilleure maintenant, la récupération.
Christine parle ensuite des activités qu'il a d'attenir, le sport, les cours d'espagnol, d'arabe, la couture.
J'aimerais bien que ça continue comme ça, même si je ne monterai jamais à l'étage des portes ouvertes.
Contrairement aux maisons d'arrêt, les centres de détention et les maisons centrales permettent une détention en régime de porte ouverte. Les portes des cellules y sont ouvertes en journée et fermées par les matons, seulement la nuit. En journée, les détenus peuvent entrer et sortir sans restriction, donc être dans le couloir de l'aile et passer d'une cellule à une autre. Le temps de promenade possible y est plus grand, l'accès aux différentes activités moins limité et l'accompagnement par des matons lors des mouvements n'est pas systématique. De tels avantages, entre guillemets, implique la possibilité du retrait de ces mêmes avantages. Ce retrait s'appelle régime de porte fermée. C'est un équivalent du régime général en maison d'arrêt. Officiellement, le placement en régime de porte fermée n'est pas une mesure disciplinaire, mais administrative. Dans la pratique, ça fait partie du même panel répressif que les quartiers d'isolement ou le quartier disciplinaire, le MITAR.
Si je suis encore là en janvier, je pourrais commencer une formation horticulture. Ce n'est pas qu'un CAP me tente, mais j'aimerais pouvoir me salir les mains avec de la terre, à bosser avec du vivant. Au mois de novembre, il doit y avoir une commission d'application des peines où ils me diront que tous mes CRP, donc mes crédits de réduction de peine, ont sauté et que je n'aurai pas de RPS, donc de remise de peine supplémentaire. Les démarches pour la confusion de peine traînent.
Dans une dernière lettre du 22 novembre, Christine raconte la tentative d'entrevue en visioconférence demandée par le juge de l'affaire pour lequel elle a été jugée à Arras.
Je n'avais pas bien compris, pourquoi ? Car je n'ai pas la possibilité de parler à l'énoncé du verdict. Je me suis dit que c'était juste de la perversité de sa part. Il voulait voir ma tronche quand il me dirait que j'ai pris 1 an de plus pour n'avoir même pas cogné sur des matons et peut-être avoir une possibilité de relever un outrage à magistrat.
Finalement, la connexion ne marche pas. Le juge demande à voir Christine à Arras la semaine d'après. Christine raconte ensuite sa grève de cartes. En signe de protestation contre les contrôles nocturnes et les escortes renforcées à chacune de ses sorties de cellules, Christine refuse de pointer avec la carte biométrique contenant ses données. Donc, elle la rend au chef de détention. Pour ça, elle passe au prétoire. Elle est condamnée à 7 jours de mitard. Mais finalement, le chef de détention ne la condamne qu'à 5 jours avec sursis. Et il lui demande de reprendre la carte. Elle refuse et se prend un nouveau rapport d'incident.
J'attends le prochain prétoire pour décider de mon attitude face à ce menteur. Rassurez-vous, je me souviens de ce que j'ai dit le 19 septembre à Arras. Je n'irai plus dans une bagarre que je ne peux pas gagner. Je vais essayer de tenir mon orgueil en laisse et ne pas pourrir mes parloirs mensuels avec mes parents. Ceci dit, je maintiens qu'on ne peut pas être respecté si on n'est pas respectable.
Alors bien sûr, l'administration pénitentiaire n'est pas respectable, ni l'institution en tant que telle, ni chacun de ses représentants. Toutes celles, tous ceux ou presque qui sont passés par la détention et croupissent actuellement en témoignent. Christine, elle, refuse de baisser la tête face aux bassesses des différentes autorités. Depuis qu'elle est incarcérée, et déjà lors de son précédent passage en détention, les chiens de l'administration pénitentiaire s'acharnent contre elle, multiplient chantage, rapports d'incidents, lui refusent parfois les parloirs ou les activités, la maintiennent en régime porte fermée ou à l'isolement. Parfois la condamne au mitard, la transfère de prison en prison, toujours plus éloignée de ses proches, de sa famille, ou vont jusqu'à la traîner dans les tribunaux pour allonger sa peine lorsqu'elle se révolte encore et au passage se faire quelques thunes. Alors vous pouvez écrire à Christine, lui envoyer des cartes, des lettres, des dessins. Son adresse c'est donc Christine Ribailly, Écrou 3373, au centre pénitentiaire pour femmes Le Plessis-Picard, à Réau 77558. Moissy-Cramayel, CEDEX. Vous pouvez retrouver son adresse sur le site de l'Envolée. On espère qu'à Réau, Christine pourra tout de même souffler un peu, trouver de la solidarité auprès des autres détenus, que de son côté, la matonnerie va enfin se résoudre à relâcher la pression. Mais on a des raisons d'en douter, parce que les services du même centre de détention de Réau viennent de refuser une permission de sortie de 8h à Caoutard. Pourtant, Caoutard devait à cette occasion rencontrer un employeur par le biais d'un organisme recruteur qui travaille avec l'administration pénitentiaire. Les combats de Kaoutar face aux vengeances et aux tortures des matons, des psychiatres, de l'administration pénitentiaire sont relayés par l'envolée depuis de nombreuses années et on a des nouvelles plus récentes à la fois donc dans le dernier numéro de l'envolée et sur le site internet.
On se projette dans l'avenir avec un but bien défini. J'aime servir, mais ma famille, pas mon pays. J'arrive à en rire, endoctriné, donne-leur ta vie. Je vais citer les trois pierres formant une bête de panoplie. Alors d'abord c'est les Schmitt, le début de la chaîne. Ces mecs ont les principes avant de taper, ils préviennent. Pas besoin d'années de pratique, 21 ans et ils te saignent. Ils se trompent en s'engageant car ils voudraient qu'on les craigne. Nous on baigne dans les menaces, les armes et les coups bas. C'est la rengaine et tu t'effaces car tu sais que t'y arriveras pas. Votre morale elle est vilaine et vous roulez pas à moins de 3. Car tu sais qu'on vous malmène, les CRS sont là pour ça. Servir la France, protéger les citoyens. Si on arrive à te mettre une danse, est-ce que la France ne vaut rien? Elle défonce votre arrogance et c'est vrai que tu le portes bien. Le costume de la souffrance, pauvre flic, tout le monde te plaint. T'es malade, t'es classé ennemi numéro 1, ta vie est fade. Et t'as du malheur sur les mains. Cherche là ton heure de gloire, continue tes patrouilles. Nous on la connaît ton histoire et on sait pourquoi tu nous fouilles. Flic, juge, maton, ces trois-là forment une chaîne. Rouille au poison, la prison n'est pas la solution. Discours frôlant l'exact, c'est sur la détention. Flic, juge, maton, ces trois-là forment une chaîne. Rouille au poison, la prison n'est pas la solution. Discours frôlant l'exact, c'est sur la détention. Moi, y'a aucune différence entre gendarme, commissaire. J'ai vite fait l'amalgame et je t'apprends rien, ça tu sais faire. Y'a pas la moindre embrouille que t'aies réussi à faire taire. Quelqu'un purge une peine pour Joe, pas respect pour sa mère. Mort trop tôt, pour sa mémoire, pas de justice, des prières. Les enquêtes sont bâclées quand le quartier perd sa chair. Les requêtes sont classées car nous sommes vos adversaires. T'inquiète, on va pas lâcher, ton taf tu sais pas le faire. Pour continuer l'histoire, toi le juge tu devrais t'asseoir. Magistrat à la con, t'es notre deuxième bête noire. T'as toujours raison, mais tu peux pas tout savoir. C'est plus un tribunal, mais une usine de désespoir. Ton public te déteste, ils t'assimilent un peu à Dieu. Comme ils ont déjà passé le test, t'es un peu leur dernier vœu. Sans pitié, impartial, la loi c'est la loi. Tu tranches, trouve ça normal d'amputer des mois la vie de ces hommes qui un jour n'ont pas marché droit. La vie est propre, sans délit, tu dois être fier de ça. Tout s'est banalisé depuis ta paye la première fois. Si tu dors bien la nuit, eux ils doivent penser à toi. Flic, juge, maton, ces trois-là forment une chaîne. Rouille au poison, la prison n'est pas la solution. Discours frôlant l'exact, c'est sur la détention. Flic, juge, maton, ces trois-là forment une chaîne. Rouille au poison, la prison n'est pas la solution. Discours frôlant l'exact, c'est sur la détention. Là c'est l'embrouille, y'a celui qui surveille. Chien de garde, prêt à mordre, réglé comme un réveil. Du bon côté les parents, t'encaisses le suicide de la veille. Si on a le pire des taux, faut croire que vous faites des merveilles. C'est porte, clé, parloir, ta gueule. Faut qu'ils s'en sortent des détenus, construis pas leur cercueil. J'suis curieuse à savoir si c'est une vocation. Furieuse de vous voir, vous plaindre sans raison. Un, arrêté pour deux, envoyé en prison. Trois mois, j'en perdrai la raison. Si seul Dieu peut juger, votre taf porte à confusion. Tant de mal à en parler, concret, secret de la profession. La justice n'est pas fiable, vous êtes incompétent. Plus d'une fois j'ai assisté à des erreurs de jugement. C'est normal d'être enfermé à l'âge de 15 ans. Retombé trois fois avant d'avoir eu 18 ans. Plus de la récidive, mais un manque d'encadrement. Y'a pas de suivi dans votre taf, il est où le discernement? Les flics mettent des baffes, moi je crache sur votre dévouement. Des solutions à la rage, cherche pas pourquoi on me clash autant. Flic, juge, maton, ces trois-là forment une chaîne. Rouille au poison, la prison n'est pas la solution. Discours frôlant l'exact, c'est sur la détention. Flic, juge, maton, ces trois-là forment une chaîne. Rouille au poison, la prison n'est pas la solution. Discours frôlant l'exact, c'est sur la détention.
Aujourd'hui, vous l'aurez vu, voilà une émission particulièrement sur le carcéral et ce qui se passe dans les prisons. Voilà, on vous donne un peu des nouvelles de l'intérieur. Donc, on rappelle encore une fois, c'est l'occasion, Parloir Libre.
Ouais, tous les samedis.
Voilà, donc.
19h.
Et donc, surtout à faire connaître à l'intérieur. Voilà, un moyen de passer des nouvelles de l'intérieur à de l'extérieur à l'intérieur. Voilà, vous passez vos messages, c'est sans censure. C'est tous les samedis, donc de 19h à 21h. Voilà. Donc, on va continuer avec un autre témoignage de l'intérieur.
Une histoire un peu dure, mais qui vaut le coup d'en parler, parce que c'est justement aussi des histoires dont on parle peu, et pourtant, c'est pas un cas isolé.
Alors, on va parler de Chloé.
Chloé, voilà. Chloé, donc combat d'une transsexuelle incarcérée à Caen. Chloé est incarcérée au centre de détention de Caen, en Normandie. Depuis 2004, elle se bat pour se faire reconnaître en tant que transsexuelle. Ce combat pour exister en tant que femme se situe à tous les niveaux, vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, du corps médical, des prisonniers et de la société en général. De 2004 à 2008, elle est en demande pour intégrer le protocole de soins officiels, passage obligé pour obtenir une modification chirurgicale du sexe avec l'obligation d'être suivie par une batterie de médecins, psychiatres, endocrinologues, urologues, etc. Face au refus à répétition, elle commence à prendre des hormones de manière non officielle. Puis elle obtient des prescriptions de manière aléatoire en fonction du bon vouloir des psychiatres. En 2007, elle se rend compte qu'un psychiatre lui prescrit des neuroleptiques en lui faisant croire que ce sont des hormones. Et c'est à cette période qu'elle commence sa vasectomie, puis l'ablation des testicules par ses propres moyens. En effet, lorsqu'elle formule des demandes afin d'être opérée, il lui est répondu de le faire elle-même. Le corps médical sera alors témoin des différentes étapes de ces tâtonnements chirurgicaux, mais refuse d'intervenir tant qu'il n'y a pas de nécrose ou de risques vitaux. De juillet 2008 à mars 2012, Chloé suit une série d'opérations qui ne font que répondre aux urgences des complications des actes qu'elle se pratique. Au cours de la dernière opération, les chirurgiens ont mal positionné son urètre. Elle devra attendre septembre 2013 pour que cela soit rectifié. C'est dans ce contexte que Chloé a appelé l'émission anticarcérale Les Murs ont des oreilles, à Grenoble, avec qui elle était déjà en contact. L'interview peut être écoutée sur internet, sur le blog de l'émission, telle que retranscrite sur le site de l'Envolée. La qualité de l'enregistrement est très mauvaise, mais voici quelques extraits que nous allons vous lire.
Je suis femme. Peu importe qui le pense ou qui pense l'inverse, ce n'est pas mon problème. Dans mon cœur, je suis femme. Si on ne m'accepte pas comme ça, je ne vois pas pourquoi, moi, j'accepterai les gens, alors que moi, je ne fais pas d'histoire. Les gens nous regardent différentes, mais c'est leur regard qui fait que l'on est différente. Ça fait du bien quand on se réveille, qu'on se met à pleurer en se disant c'est fini, parce que ça fait quand même 2 ans que cette histoire traîne. Au début, on m'interdisait les permissions, parce qu'ils ne voulaient surtout pas qu'une trans apparaisse dans la ville, surtout en venant d'un centre de détention. Lors des extractions, une fois sur deux, les surveillants ne voulaient pas m'amener, parce que j'étais en jupe. Puis, ils ont trouvé une solution. Ils m'ont dit de me démerder moi-même pour faire mes soins. Du coup, maintenant, je n'ai plus de surveillant et j'ai la permission de me faire soigner.
Ils avaient proposé l'unité hospitalière sécurisée interrégionale de Rennes parce que c'est un centre hospitalier qui ne s'occupe que des détenus. Mais il n'en était pas question. Ils me donnent des permissions pour aller faire des expertises médicales à droite et à gauche. Pourquoi j'accepterais de mettre une paire de menottes pour aller à Rennes pour faire soigner quelque chose qu'un CHU qui est à 2 km a fait et ne peut pas et ne veut pas réparer? J'ai dit que je n'étais pas d'accord, alors on m'a dit de trouver un CHU. J'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai pris un rendez-vous et j'ai demandé une permission. Ils m'ont laissé partir. Normalement, je devrais rentrer vendredi, mais l'opération ayant été beaucoup plus longue et compliquée que prévu, j'ai dû rester 4 jours de plus. Les autres fois, c'était avec les menottes et ils étaient tous là. Une des pires fois dont je me souvienne, on m'a posé une sonde sans se demander pourquoi c'était bouché, alors que je me l'étais coupé, donc forcément c'était bouché. Ils m'ont posé une sonde à vif et ils l'ont foncé d'un grand coup alors que j'étais attaché avec des menottes. J'étais allongé par terre parce que je n'arrivais pas à tenir tellement je souffrais. Quand je leur ai demandé de sortir, ils ont refusé et ils se sont simplement tournés.
Du point de vue des détenus, ça s'est un peu calmé. C'est du point de vue des surveillants et de la gestion de mon corps que c'est devenu plus compliqué. Parce que dorénavant, je m'assume. Je lève la tête. Et celui qui n'est pas content, c'est très simple. Allô, avocat ? Tout au début, quand j'ai commencé à m'assumer, c'était avec les détenus que j'avais des problèmes. C'est vrai que ça leur faisait bizarre de voir quelqu'un sortir de sa cellule en t-shirt rose et une poitrine qui commence à gonfler. Et le centre de détention de Caen est réputé pour être en majorité des histoires de mœurs. C'est vrai qu'au début, c'est eux. Les viols, c'est eux. C'est pas les surveillants. Après avoir rencontré mon compagnon, Les détenus n'osaient plus trop m'approcher, mais les surveillants s'en sont donnés à cœur joie. La tentouse, le travelot, la drag queen, etc. Quand les détenus humilient, ils savent qu'ils risquent quelque chose, alors que les surveillants le font parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien. C'est la loi de l'intérieur. Il n'y a pas de loi qui gère les prisons. La loi des prisons, c'est la loi des surveillants. Quand ils font une manifestation, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils nous prennent, nous, êtres humains, en otage. Ils font un peu ce qu'ils veulent dedans. Sur ma transsexualité, il y en a qui sont très tolérants. Par contre, il y en a qui n'acceptent pas du tout. Mais depuis le suicide de Nathalie, ils ont tendance à mettre un peu le pied sur le frein.
Avec tout ce que je me suis fait, ça peut partir en vrille directement. Parce que je n'accepte plus, c'est fini. La première personne qui me dit quelque chose, peu importe qui c'est, je redresse la tête et je lui montre les dents. Je ne veux plus accepter, après tout ce que j'ai souffert, de continuer à souffrir. Ça doit s'arrêter tout ça. Les transsexuels en prison, actuellement, c'est une horreur. Je connais une transsexuelle du côté de Saint-Martin-de-Ré qui a failli se suicider. D'autres à Fresnes et à Fleury qui ne vont pas bien.
Dès que quelque chose ne va pas, je tape sur la table. Je cherche pas à comprendre. Ils viennent de faire une note sur les transsexuels, enfin, surtout pour moi. Avant, j'avais le droit d'être fouillé par une femme pour le haut et par un homme pour le bas, du fait que j'ai des seins et que j'avais encore un truc entre les jambes. C'est pas tout à fait une note, c'était un accord sur papier. Mais la direction de l'administration pénitentiaire a pondu une autre note, en disant que dorénavant, je serais fouillé par un homme, intégralement nu, si nécessaire. J'ai demandé ce qu'il se passerait si je refusais. Ils m'ont répondu qu'ils appelleraient 5 ou 6 surveillants pour me foutre à terre et à poil. Je leur ai dit qu'il ne serait pas bon de faire ça, parce que la réaction arriverait, à vitesse grand V. On a tapé du poing sur la table. De la rue, le contrôleur général des prisons, a demandé ce que voulait dire cette note, parce que c'est de l'atteinte à la vie privée d'autrui. Puis ils disent que, comme je suis en détention homme, il faut que je sois fouillé comme un homme. Eh ben, je vais faire comme tous les détenus. En plein été, quand tous les détenus vont bronzer torse nu, moi aussi je vais me mettre torse nu avec les garçons. Ils m'ont répondu que je n'avais pas le droit de faire ça. Faudrait quand même savoir ce qu'ils veulent. Je ne lâche plus rien. Si j'apprends qu'il y a une trans en prison qui ne va pas bien et qui n'obtient pas ce que moi j'ai légalement, je ne comprends pas pourquoi il y a des demi-mesures. On souffre beaucoup trop parce qu'on est en détention homme. Faut arrêter quoi.
L'établissement public de santé de Fresnes, l'hôpital prison, a décidé de ne plus s'occuper de transsexuels en prison, c'est-à-dire que les trans qui sont à Caen n'iront jamais à Fresnes. Il faut demander son transfert soit sur Marseille, Bordeaux ou Toulouse. Il n'en est pas question, car elles ont leur famille dans le coin. L'établissement public de Fresnes n'a pas à refuser une patiente. La loi est la loi pour tout le monde. Un centre hospitalier ne peut pas sélectionner le genre de patient qu'il souhaite soigner. Ils ont tous sur place et ils prétendent que non. Mais j'y suis allé pendant 6 mois, donc je sais qu'ils ont tout. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. Actuellement, toutes les transsexuelles en prison ne sont pas suivies. Je suis la seule hormonée. En clair, ils laissent traîner jusqu'à ce que tu sois sortie. Comme ça, tu iras te faire soigner dehors.
Ça y est, c'est fait. Officiellement, je m'appelle Chloé sur ma carte d'identité. J'ai demandé mon changement d'identité sexuelle. J'étais un peu déçu de la réponse. Ils veulent une expertise psychiatrique. Ça fait quand même la 9e. Faut arrêter, quoi. Il y en a marre des expertises psychiatriques. Je l'ai faite. Et il a été reconnu qu'il est vraiment souhaitable de changer mon identité sexuelle sur ma carte d'identité. Il est également reconnu que le centre des détentions, ainsi que la médecine, m'ont bien fait souffrir durant des années. Et que cela n'aurait jamais dû arriver. L'ordonnance sera rendue mi-février.
Pour Chloé, qui s'est mariée avec un co-détenu au centre de détention fin septembre, l'enjeu est d'être transférée dans une prison pour femmes.
Je l'ai déjà demandé parce qu'il y a une jurisprudence de la Cour européenne. Ça fait 2 ans qu'ils ne répondent pas. C'est la façon de l'administration pénitentiaire. Demande-nous ce dont tu as besoin, on t'expliquera comment t'en passer. Il est certain qu'au mois de février, si la justice décide que je suis reconnue comme une femme, dans l'heure qui va suivre, je veux être transféré. Simplement, on m'a bien fait comprendre que jamais cela n'arrivera, parce qu'ils ne veulent pas de jurisprudence en France. Comme je ne suis plus très loin de la fin de peine, ils vont me foutre dehors avant.
Chloé est conditionnable depuis 2007. Nathalie, dont parle Chloé, s'est pendue au centre de détention pour hommes de Caen en novembre 2012. Depuis plus d'un an, elle demandait des informations sur les structures médicales spécialisées dans la prise en charge des personnes trans, et venait d'apprendre que son recours pour obtenir l'autorisation d'utiliser son prénom avait été rejetée. Ses demandes de prise en charge médicale étaient restées lettres mortes.
Le coup de Nathalie a été le coup de trop. Ça peut pas continuer comme ça. Je l'ai connue. Elle est arrivée après moi, elle a essayé de se battre. On s'est moqué d'elle. Actuellement, je suis la seule personne à être allée sur sa tombe. Elle est enterrée au carré des indigents. Elle n'avait qu'un seul ami, son compagnon, qui était à l'enterrement. Il y avait aussi deux personnes de la paix pour faire acte de présente, mais à 30 mètres de la tombe, histoire de ne pas être sur les photos. Sa famille l'a complètement abandonnée. Personne ne s'occupe de la tombe. Quand elle est arrivée, elle est venue me voir. Je lui ai dit qu'il y avait deux manières de se battre. Soit en silence, comme pendant la guerre, soit tu te bats en hurlant et tu vas te manger des coups. Je lui ai dit de le faire progressivement, c'est-à-dire un peu tous les jours. Ce qui est fait est acquis. Au début, ça a marché. Puis elle a un peu cafouillé. Elle était sur une voie de garage. Elle m'a demandé ce qu'elle pouvait faire. Je lui ai donné une lettre type à adresser à deux, trois adresses que je connaissais. Sa motivation s'est redéveloppée, mais tout est parti en vrille. L'administration s'en est mêlée, les détenus ont commencé à la taquiner, ils ont commencé à ne plus arrêter de la fouiller à poil pour vérifier, à dire « monsieur », plein de choses comme ça. Elle s'est retrouvée en quartier différentiel, qui est un quartier d'isolement. Elle était juste en face de chez moi, deux étages en dessous. Du coup, on voit ce qui se passe. On ne peut rien louper. Un soir, elle a mis une corde, elle s'est accrochée. Elle a sonné avant de s'accrocher dans l'espoir que l'on vienne à son secours, mais on n'est pas venu à son secours, ou trop tard, voilà. C'était une petite bonne femme. Elle faisait 1m65, elle se promenait toujours avec son sac à main, jusqu'au jour où on a commencé à lui faire des histoires. Et là, tout s'est enchaîné.
Pour les personnes comme moi, il ne faut jamais baisser la tête. Parce que si on baisse une seule fois la tête, on est fini. On a les détenus, comme les surveillants, sur le dos. C'est très clair. À partir du moment où l'on fait un pas en arrière, c'est fini. On n'est plus crédible, on est faible, on est fragile. C'est seulement quand on redresse la tête et que l'on se dit « Allez, je m'assume !» que c'est le bonheur. C'est le pied total. On rentre le soir dans sa cellule en se disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis complètement pas bien dans ma tête. » Mais alors quel bonheur quand tu t'endors et que tu y repenses. Tu t'endors avec un sourire. Faut jamais baisser les bras.
Le 9 septembre dernier, Chloé n'a pas pu comparaître au tribunal de Caen. Une nouvelle fois, l'administration pénitentiaire a jugé sa tenue inappropriée. Elle portait une jupe. Le tribunal l'a condamnée à 15 jours de prison supplémentaire pour avoir insulté un maton en 2010, après s'être fait confisquer son maquillage et son traitement hormonal. À Fleury-Mérogis, une petite zone dans le quartier des hommes est prévue pour quelques détenus trans. Globalement, les traitements hormonaux leur sont refusés, tout comme l'accès à des chirurgies de réassignation sexuelle. Les agressions de la plupart des autres détenus sont ignorées, voire encouragées par la transphobie de la plupart des matons. Lorsqu'elles sont prises en compte, l'administration pénitentiaire « règle le problème », entre guillemets, en isolant la victime pour sa sécurité. C'est le cas de Ruby, placée à l'isolement depuis son arrivée au Baumettes. Elle ne parle pas français et ne peut être en contact qu'avec les matons et les rares travailleurs sociaux qui ont l'autorisation de la voir. Des personnes s'organisent pour s'assurer qu'elle ait accès à son traitement et lui faire parvenir vêtements, cosmétiques et radios. La transphobie et l'isolement des femmes trans en prison n'est que le reflet exacerbé de la transphobie et de la misogynie générale de la société. De même, les personnes trans en prison ne font que subir, d'une manière exacerbée, le sort infligé à toutes les prisonnières et à tous les prisonniers. Il n'y a pas de solution satisfaisante envisageable en dehors de la destruction du système carcéral et de l'anéantissement de la transphobie sous toutes ses formes. La solidarité, à l'extérieur comme à l'intérieur, est un premier pas. Pour en finir, deux extraits de courrier de Chloé.
Avril 2012. Sur l'administration pénitentiaire, ils ne font que ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Ce n'est que quand les gens qui osent réellement taper sur la table que cela bouge, mais dans une courte limite. La prison est une zone de non-droit où les règlements se font et se défont comme ils le souhaitent. La tolérance, le respect de l'être humain n'est nullement une chose qui rentre dans leurs priorités. La première vision de la détention et de l'administration, ici comme ailleurs, c'est que vous faites votre peine et payez par quelque moyen que ce soit, les parties civiles. Après, on verra s'il reste du temps pour que le SPIP s'occupe de vous, ou mieux, occupez-vous de vous-même. Leur blabla qui concerne le SPIP est une réinsertion, sont des blagues pour tromper le public. Même si certains y ont droit et se réinsèrent grâce à ces services, Le pourcentage est minime par rapport à ceux qui n'ont jamais été aidés et y sont arrivés par eux-mêmes.
Juillet 2012. Tout le monde, médecine, comme administration, comme ami, se demande comment j'ai pu ne pas mourir, après tout ce que je me suis faite. Même moi, par moments, je me demandais si j'avais assez de sang pour vivre. Comment j'ai pu ne pas être infecté, faire une septicémie, une hémorragie, une crise cardiaque. Comment j'ai pu faire pour ne pas me pendre quand ils me retiraient les hormones, puis me les rendaient, puis me les retiraient. Comment j'ai fait pour ne jamais crier au secours? Comment j'ai pu apporter comme cela une testicule dans leur bureau sans crier ma souffrance? Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il aurait été plus simple pour moi d'éteindre cette lumière, avoir ce repos bien mérité, ne plus souffrir, ne plus avoir peur que l'on me retire mes hormones, ne plus avoir peur de me faire agresser, ne plus me demander ce que je dois faire demain pour survivre, quel combat je devrais encore mener. Moi, à ce jour, je ne cesse de revoir le soir, quand je me couche, les images où je me retirais les testicules, les images de toutes les souffrances, les images de tout ce sang versé. Cela fait partie dorénavant de mon marchand de sable. Cela passe en boucle, sans que je puisse arrêter ce film d'horreur. Mais s'il fallait refaire ce combat, oui, je le referai. Pour moi, pour mes sœurs qui souffrent en prison, pour qu'elles n'en viennent pas à se faire ce que moi je me suis faite pour être reconnue. Oui, je referai ce combat, mais avec plus de rage.
Le soleil mat perce à peine les vitres opaques de ma cellule. L'atmosphère est moite, autour de moi les blattes pullulent. Le grillage aux fenêtres m'empêche de voir dehors. De toute façon c'est toujours le même décor, la même coupe, le même mirador. Face blême déphasée, au chichon défoncé. Je trouve la force de plaquer sur mon bloc dans mes pensées. Enfermé là, je fais les 100 pas et je pense aux dégâts que ces 10 ans vont causer dans ma vie dans les prochains mois.
Fais tort à l'intérieur et rien n'en sort, j'en souffre. La rage m'étouffe et je tombe comme une pierre dans le gouffre. Enterrée vivante dans la louverie, privée de souffle, j'ai appris
à hurler.
Pas comme l'agneau qu'on égorge, mais comme l'ouvre affamé les mille. Proposition du hasard qui s'estompe mille. Plaies ouvertes chaque seconde et amorce le décompte. L'apprentissage de l'éternité. 100 jours, 100 ans, faut que j'apprenne à compter.
Sache que ma vie,
ici,
je vis clos. On s'est fait piquer
bêtement.
C'est ça,
maintenant.
Le juge nous a fait manger la gamelle.
Pour combien?
Que je mène ici me dégoûte, fais planer le doute sur moi. Mais des obstacles sur ma route. Ce voyage dans la soute me laissera pas intact. Pourtant, non, jamais, avec le diable, j'ai fait de pacte. Intact était ma vie jusqu'ici. Loin de moi, les képis, les flics, les fusils, calibre, flingue et autres usines. Est-ce un destin pourri ou l'accumulation des soucis qui paraît soir d'avril me pousse à faire des conneries?
C'est dommage, j'avais une famille, un job au black, un chien cool, je touchais même le chômage. Qu'est-ce que je vais traîner avec cet associé jaloux dont l'amitié était blasée, basée sur des rapports flous?
Mon avocat, il m'avoua que pour moi, eh ben c'était moute, putain pourquoi? Coûte que coûte. Faut-il que le doute, la guigne et les emmerdes viennent se mettre au travers de ma route?
Sous cas, je suis ici, ça candave, pourri jusqu'à l'os. Des gouttes coulent sur mes joues quand je pense à mes gosses. Ma force, pour eux, je bombe le torse, me donne de l'espoir. Quand je vois leur sourire à travers les vides sales du parloir.
De la fenêtre à la porte, seulement 10 pas, un truc carré pour pisser, un supplice et rien d'autre. Faut-il que je laisse mon passé filer, que je baisse les bras? Je ne peux pas me nier ni tomber plus bas.
Parce que ma vie,
ici,
j'ai huis clos. Fait piquer
bêtement,
ça, maintenant.
Je nous a fait manger la gamelle.
Pour combien?
10 ans.
Réduit un enfer
carcéral.
Le cancer
viscéral.
On est là dans un huis clos
infernal.
On s'est fait piquer
bêtement,
ça,
maintenant.
Le juge nous a fait manger la gamelle.
Pour combien?
10 ans. Ici on te traite comme une merde, alors sois une bête. Garde la tête haute, fais des pompes et protège ton cul. Foutu dans ce rebut, malgré l'éducation. Au début tu t'en fous, mais après j'ai déçu. Les murs de ma cellule sont tagués. Je reconnais des potes du quartier. Yo, ils vont me manquer. Enfermé comme un fauve dans cette cage, tu dois que dans ce 4 mètres carrés.
Ma seule force et ma rage.
On réagit en fonction de rien ici. En dépit de tout, dans ce trou, les rats sont partout. Alors on s'occupe comme on peut. Et
et c'est tant mieux. Mais le temps ne passe pas et les événements deviennent dangereux.
Faut que j'échappe au frottement, dans les douches, les cours, les ateliers. Je fais gaffe au glissement, les succubants en furie cherchent un amant. Changeant comme des toupies, violente comme des macs, prêtes à l'attaque.
Si ton goût taille ou quand tu batailles, un conseil qui se vient à la moelle, on anticipe tes funérailles. C'est comme si Jésus fils, c'est ceux qui t'aiment, ils savent qu'ils rêvent de voir plus vite ensemble sur les hauteurs de crucifix. Même écroué dans cette zonzon, notre seule ambition après l'évasion, brasser du pognon. Pour les clopes, les lits de salope, la bouffe, le shit, les paris.
Et pourtant c'est la top.
Ma vie,
ici,
c'est huis clos. On s'est fait piquer,
bêtement,
c'est ça,
maintenant.
J'ai tout à fait mangé la gamelle.
Pour combien déjà
réduit à l'enfer,
carcéral,
fusural. On est là, dans un huis clos,
infernal.
On s'est fait piquer,
bêtement,
c'est ça,
maintenant.
J'ai tout à fait mangé la gamelle.
Et les heures qui passent comme des déserts.
Je deviens fou et je peux plus rester là.
Tu vois où va la vie, c'est pas normal. Sache que j'ai pris 10 ans. Derrière les barreaux, j'avais pas prévu. Trop dur à supporter un tel destin. J'ai pas de chance.
Et puis c'est pas tout.
Tout le monde est venu foutre rage. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé 4 portes de promenade. On a cassé 3 portes pour accéder à la détention. On a tout cassé. On a cassé toutes les serrures. On a cassé toutes les portes. On pouvait pas se comporter normalement. On a cassé toutes les serrures. On a cassé toutes les portes.
Et voilà, donc on rappelle que le procès de la mutinerie de Blois se déroulait aujourd'hui au tribunal de Blois à partir de 13h30, que 4 des 9 détenus qui comparaissaient devant le tribunal ont été donc libres avant de comparaître, et on espère qu'ils vont ressortir libres de ce tribunal et que les autres seront libérés bientôt.
Voilà, une des chaînes, c'est fini on dirait, hein.
Ça a l'air.
Bon, voilà, c'était une des chaînes. On vous dit à la semaine prochaine sur Radio Galère.
Et puis, tant qu'on est encore à l'antenne, et quand même, sur cette réforme pénale de Taubira, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le 8 avril, à partir du 8 avril, qu'elle va être examinée à l'Assemblée nationale. Et que, quand même, faut bien le dire, c'est loin d'être une réforme laxiste. Qu'au contraire, c'est une réforme qui, en gros, prévoit pour les courtes peines, des peines plus longues, mais à la maison ou bien à l'hôpital psychiatrique, là où on peut se faire soigner, là où on peut prouver qu'on est en train de se réinsérer dans cette société, donc à l'HP, au travail, en cure de désintox. Voilà. Et pour les longues peines, en gros, ce qu'elle prévoit, c'est des peines encore plus longues. C'est-à-dire que avant on était en conditionnel à mi-peine et qu'avec la réforme Taubira, on pourra être conditionnable qu'aux 2/3 de la peine. Voilà, et puis sinon ce qu'on peut préciser sur cette réforme, c'est que c'est une réforme qui encore une fois renforce la justice de classe, puisqu'avec la nouvelle peine, la peine probatoire, il s'agira de, pour éviter la case prison ou la case bracelet, d'indemniser, de dédommager les parties civiles, et donc d'aller au travail et de payer, de raquer. On imagine évidemment que les chômeurs sans papier et autres étrangers indigents, eux iront toujours remplir les geôles.
Ah oui, c'est le dernier, ouais, elle a tué tout le monde. Hein.
Du coup, on va en profiter pour rappeler ce que disait Christine, quand même, que le shit est un des meilleurs associés de l'administration pénitentiaire, mais on peut dire que c'est aussi un des meilleurs associés de l'État. Jusque dans les studios de Radio Galère, puisqu'on est complètement KO et qu'on n'arrive même pas à conclure cette émission sur une démarche un peu plus dynamique. Pour nous encourager à en finir pour de bon avec ce monde et toutes
avec
les prisons. Toutes
ces prisons. Ah, je nourris des perspectives.
Oh, yeah. C'est une belle sortie, hein. Putain.